à voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Virginia Crespo.
Canal Academy vous invite, grâce à la complicité de l'historienne Françoise Kermina, ainsi que des éditions Talendier et de leur collection La Bibliothèque d'Evelyne Levert, à écouter des lectures de lettres que le roi Henri IV écrivit tout au long de sa vie à ses épouses légitimes d'une part et à ses nombreuses maîtresses d'autre part. Ces lettres d'amour ont été, en effet, publiées dans le dernier ouvrage de Françoise Kermina. Lettres d'amour, 1585-1610, j'ai tellement envie de vous. Paru aux éditions Talendier, avec une préface de Jean Castarède et une postface des extraits du livre d'Eugène Jung, publié en 1855 sur les talents d'écrivain d'Henri IV. Ces lettres d'amour d'Henri IV, précise l'auteur et l'éditeur, nous apportent un éclairage pittoresque sur la véritable nature attachante de celui qui reste le plus populaire de nos rois. Elles sont extraites du recueil qui en a été fait au XIXe siècle par deux professeurs chargés de ce travail pendant une quarantaine d'années et publié en 9 tomes par messieurs Berger de Xivray et Gadet, 1843-1876. Nous en avons extrait près de 200, adressés à 3 principales maîtresses. Corisande d'Andouin, comtesse de Gramont, Gabrielle d'Estrées, Henriette de Balzac d'Entragues, qui ont correspondu à 3 époques fondamentales de la vie du roi. La première époque, grâce à Corisande, fut celle de l'accession au trône. Seconde période, grâce à Gabrielle, qui fut celle de la réconciliation avec les Français, notamment l'édit de Nantes après la conversion. La 3e période ayant été celle de la consolidation de l'État. Si les 2 premières maîtresses ont joué un rôle déterminant dans l'action politique, la 3e a plutôt servi de repoussoir, d'épouvantail, en fomentant des complots et en nourrissant des intrigues qui ont empoisonné la vie d'Henri IV. Et c'est aussi le mystère de la psychologie de ce roi que reflète cette correspondance, où son auteur apparaît néanmoins comme un écrivain prenant sa place parmi les grands épistoliers de la littérature française. Né à Pau le 14 décembre 1553, le jeune Henri de Navarre, le futur Henri IV, était le fils d'Antoine de Bourbon et de Jeanne d'Albret, reine de Navarre. Après avoir passé sa jeunesse dans le Béarn, il fut élevé dès l'âge de 8 ans à la cour de France, avec ses cousins valois. Il reçut l'éducation d'un parfait gentilhomme. Sa mère, elle, lui dispensa une éducation calviniste. Sa naissance dans le Béarn, son enfance, son éducation et les valeurs réformées que lui transmet sa mère, Jeanne d'Albret, surnommée la reine des Huguenots, forgent au roi une personnalité forte. Par son père, il acquiert d'autres talents, le courage physique, le charme, la gaieté, le goût des plaisirs de la vie. Par son éducation à la cour, il connaîtra toutes les intrigues, les fidèles et les autres. Son mariage, le 18 août 1572, à Paris, avec Marguerite de Valois, sœur de Charles IX et d'Henri III, fut décidé après le traité de Saint-Germain, en signe d'apaisement entre les 2 communautés religieuses. Une semaine plus tard, eut lieu le massacre de la Saint-Barthélemy. Homme de guerre, homme d'État, qui a su imposer la paix par les armes, roi, rassembleur et bâtisseur, Henri IV, au tempérament vif-argent, est aussi un homme de passion. Il adore la chasse et un homme de plaisir. Il aime séduire les femmes. Voici donc des extraits de la correspondance entre Henri IV et sa première épouse, Marguerite de Valois, dite la reine Margot, née le 14 mai, à Saint-Germain-en-Laye, en 1953, décédée le 27 mars 1615 à Paris. Elle épouse donc Henri IV le 18 août 1572. Ce seront les noces de sang, Leur union étant restée stérile et face aux frasques de la reine, Henri IV obtiendra l'annulation de leur mariage en 1599 par le pape Clément VIII.
Mamie, encore que nous soyons, vous et moi, tellement unis que nos cœurs et nos volontés ne soient qu'une même chose, et que je n'ai rien de si cher que l'amitié que vous me portez, pour vous rendre les devoirs dont je me sens obligé, si vous prierez de ne point trouver étrange une résolution que j'ai prise, contraint par la nécessité, sans vous en avoir rien dit. Mais puisque c'est force que vous le sachiez, je vous puis protester, mamie, que ce m'est un regret extrême, qu'au lieu du contentement que je désirais vous donner et vous faire recevoir quelque plaisir dans ce pays, il faille tout le contraire et qu'ayez le déplaisir de voir ma conduite réduite à un tel malheur. Vous êtes témoin de la peine que j'ai prise pour y apporter la douceur, ayant tant que j'ai pu rejeter les moyens extraordinaires pour espérer de la main du roi et de la reine, votre mère, les remèdes convenables. Tout cela n'a servi de rien. Le roi dit qu'il veut la paix. Je suis content de le croire, mais les moyens dont son conseil veut user tendent à notre ruine. Ayant aussi, par les dernières dépêches venues de la cour, assez connu qu'il ne faut pas endormir la condition des églises réformées, qui me requièrent incessamment de pourvoir à leur défense, je n'ai plus pu retarder et suis parti avec autant de regrets que j'en aurais jamais à voir, ayant différé de vous en dire l'occasion, que j'ai mieux aimé vous écrire parce que les mouvements nouveaux ne se savent que trop. Cependant, aimez-moi toujours, comme celui qui vous aime et estime plus que chose au monde. Ne vous attristez point, c'est assez qu'il y en ait un de nous malheureux, qui néanmoins, dans son malheur, s'estime d'autant plus heureux que son cœur devant Dieu sera juste et équitable. Je vous baise un million de fois les mains.
La reine Marguerite à Monsieur de Rosny, Usseau, 1594.
Étant fille de France, ayant été fille, sœur et femme de roi, et seule restée de toute la race royale des Valois qui respira l'air de cette vie, elle aimait si chèrement sa patrie, affectionnait tellement la personne et le contentement du roi, et désirait si ardemment de lui voir des enfants légitimes qui puissent succéder sans dispute à cette couronne, que, n'étant pas en état de lui pouvoir faire trouver ce bonheur en sa personne, elle le désirait et souhaitait en une autre qui fût digne de lui et que, par ce même effet, elle était résolue à contribuer en tout ce qui serait en sa puissance pour faciliter et accélérer la dissolution de son mariage. Mais que si c'était pour mettre en sa place une femme de si basse extraction et qui avait démené une vie si sale et vilaine comme était celle dont on faisait courir le bruit, elle ferait tout le contraire et ne quitterait rien du sien pour le voir si mal colloqué.
La reine Marguerite au roi, Usson, à la fin de 1599 ou au début de 1600.
Monseigneur, votre majesté, à l'imitation des dieux, ne se contente pas de consoler ses créatures de biens et de faveurs, mais daigne encore les regarder et consoler en leur affliction. Cet honneur, qui témoigne celui de sa bienveillance, est si grand qu'il ne peut être égalé que de l'infinité volonté que j'ai vouée à son service. Il ne me fallait en cette occasion moindre consolation, car, bien qu'il soit aisé de se consoler de la perte de quelque bien de fortune que ce soit, d'une pourtant qui a sa vie et sa naissance telle que je l'ai, le seul respect du mérite d'un roi si parfait et si valeureux en doit retrancher par sa privation toute consolation et marque de la générosité d'une belle âme d'en conserver un immortel regret, tel que serait le mien, si la félicité qu'il lui plaît me faire ressentir, en l'assurant de sa bonne grâce et protection, ne le bannissait pour changer ma plainte en louange de sa bonté et des grâces qu'il lui plaît me départir. De quoi votre majesté n'honorera jamais personne qui les ressente avec tant de révérence, par très humble et très fidèle service, qui me rendent digne d'être tenu de votre majesté, pour votre très humble et très affectionnée servante, sœur et sujette, Marguerite.
« Voici maintenant des extraits de la correspondance entre Henri IV et sa maîtresse Diane d'Andouin, comtesse de Gramont, dite la belle Corisande, maîtresse du roi de 1573 à 1590, née en 1554, décédée en 1620 en Navarre. Cette maîtresse sera certainement la seule à avoir obtenu l'estime d'Henri IV. L'auteur et historienne Françoise Kermina précise « À 13 ans, Diane d'Andouin épousa Philibert de Guiche, futur comte de Gramont, qui fut tué en 1580 au siège de l'affaire contre les Huguenots. Dès lors, Diane se consacra à l'éducation de ses deux enfants et à la gestion de sa fortune, jusqu'à ses retrouvailles en 1582 avec son ami d'enfance, Henri de Navarre, au château de Pau. Tous deux étaient libres, le roi étant séparé de sa femme, Marguerite de Valois. Tous deux étaient jeunes encore, ils avaient la trentaine. Pendant leurs nombreuses séparations, leurs lettres étaient très fréquentes. Le roi, qui avait en elle une confiance absolue, la tenait au courant de toutes les péripéties de ses campagnes. À une époque où les informations circulaient mal, ces messages, parfois de véritables bulletins militaires dont la comtesse de Gramont assurait la diffusion, étaient pour lui un moyen de se tenir en contact avec ses partisans restés en Gascogne, ce qui donne à cette correspondance une connotation beaucoup moins sensuelle et affective qu'à celle de ses autres maîtresses. Le roi à la comtesse de Gramont, Lusignan, le 26 mai 1586.
La maladie commence tellement à prendre parmi nos troupes qu'elle nous fera plutôt quitter la campagne que les ennemis. Je suis sur le point de vous recouvrer un cheval qui va à l'entrepas, le plus beau que vous vîtes jamais, et le meilleur, force panache d'aigrette. Bonnière est allé à Poitiers acheter des cordes de lutte pour vous. Il sera ce soir de retour. Je ne me porte guère bien et crains de tomber malade. Le maréchal de Biron fait ce qu'il peut pour rassembler des forces. Il ne nous faudra quitter la campagne s'il ne lui en vient de France et de Gascogne. Mon cœur, souvenez-vous toujours de Petiot. Certes, sa fidélité est un miracle. Il vous souhaite mille fois le jour dans ses allées de l'Iranuse. Vous pouvez penser s'il ne vous y baille par Rosambeau, pour vous garder d'ennuyer. Certes, il faudrait que ce fût bien sauvage, ou vous vous ennuieriez ensemble. Adieu, mon cœur. Je te baise un million de fois les mains. Aimez-moi plus que vous-même.
Le roi à la comtesse de Gramont, La Rochelle, le 17 juin 1586.
J'arrivais hier soir de Marance, où j'étais allé pour pourvoir à la garde d'Isselui. Ah, que je vous y souhaitais! C'est le lieu le plus selon votre humeur que j'ai jamais vu. Pour ce seul respect, suis-je prêt à l'échanger. C'est une île renfermée de marais bocageux où, de 100 pas en 100 pas, il y a des canaux pour aller chercher le bois par bateau. L'eau claire peu courante, les canaux de toute largeur, les bateaux de toute grandeur. Parmi ces déserts, 1000 jardins où l'on ne va que par bateau. L'île a 2 lieues de tour ainsi environnée. Passe une rivière par le pied du château, au milieu du bourg, qui est aussi logeable que Pau. Peu de maisons qui n'entrent de sa porte dans son petit bateau. Cette rivière s'étend entre 2 bras, qui portent non seulement grands bateaux, mais les navires de 50 tonneaux y viennent. Il n'y a que 2 lieues jusqu'à la mer. Certes, c'est un canal, non une rivière. Contremont vont les grands bateaux jusqu'à Niort, où il y a 12 lieues, infinis moulins et métairies insulées, tant de sortes d'oiseaux qui chantent, de toutes sortes, de ceux de mer je vous envoie des plumes. Du poisson, c'est une monstruosité que la quantité, la grandeur et le prix. Une grande carpe, 3 sols, et 5, un brochet. C'est un lieu de grand trafic, et tout par bateau. La terre, très pleine de blé, est très beau. L'on y peut être plaisamment en paix et sûrement en guerre. L'on s'y peut réjouir avec ce que l'on aime et plaindre une absence. Ah, qu'il y fait bon chanter! Je pars jeudi pour aller à Ponce, où je serai plus près de vous. Mais je n'y ferai guère de séjour. Je crois que mes autres laquais sont morts, il n'en est revenu nul. Mon âme, tenez-moi en votre bonne grâce. Croyez ma fidélité être blanche et sans tache. Il n'en fut jamais de pareille. Si cela vous apporte du contentement, vivez heureuse. Votre esclave vous adore violemment. Je te baise, mon cœur, 1 million de fois les mains.
Le roi à la comtesse de Gramont, La Rochelle, le 22 décembre 1588.
Je me porte bien, n'ayant sur le cœur qu'un violent désir de vous voir. Je ne sais quand je serai aussi heureux. S'il s'en présente l'occasion, je lui montrerai bien que je sais qu'elle m'est due. Je ne vous prie point de m'aimer. Vous l'avez fait que vous n'en aviez pas tant d'occasion. Il y a 2 choses dont je ne douterai jamais de vous. De votre amour, de votre fidélité. J'attends Lycéras. Les bons amis sont rares. Vraiment, j'achèterai bien 3 heures de parlement avec vous. Bonsoir, mon âme. Je voudrais être au coin de votre foyer pour réchauffer votre potage.
Le roi à la comtesse de Gramont, Niort, le 1er janvier 1589.
Tant que loin de ton œil sous l'astre mon cœur.
Aujourd'hui se sont rendus à moi Saint-Mexant et Maïsset. Et espère devant la fin de ce mois que vous entendrez parler de moi. Le roi triomphe. Il a fait garrotter en prison le cardinal de Guise, puis montrer sur la place 24 heures le président de Neuilly et le prévôt des marchands pendus, et le secrétaire de feu Monsieur de Guise et 3 autres. Il a envoyé à Lyon pour attraper le duc du Maine. On ne sait ce qu'il en est réussi. On se bat à Orléans, et encore plus près d'ici, à Poitiers, d'où je ne serai demain qu'à 7 lieues. Si le roi le voulait, je les mettrais bien d'accord. Je n'attends que l'heure de ouïr dire que l'on aura envoyé étrangler la feu reine de Navarre. Cela, avec la mort de sa mère, me ferait bien chanter le cantique de Siméon. C'est une trop longue lettre pour un homme de guerre. Bonsoir, mon âme. Je te baise 100 millions de fois. Aimez-moi comme vous en avez sujet.
Qu'on ne laisse le temps se passer en vain. Tout en l'aise présent et d'un si grand bien qui t'offrit possédant le fruit.
Ça met beaucoup de contentement de savoir que vous commencez à prendre garde à vous. Certes, vous y avez plus de sujets que vous ne pensez. N'oubliez rien qui puisse servir à votre conservation et à votre grandeur. Et si vous êtes forcé de courir une malheureuse fortune, faites voir à vos serviteurs et à vos ennemis un visage assuré et constant au milieu de vos désastres. Cela servira à ceux qui vous aiment de les rendre encore plus vôtres qu'ils ne le sont, et à ceux qui veulent vous nuire de songer à eux devant que d'attaquer une personne que la mort même ne saurait étonner. Vous valez pour moi plus que personne au monde. Montrez-vous donc encore plus digne de l'amitié de celle qui n'a rien estimé plus que vous.
Voici maintenant des extraits de la correspondance entretenue par le roi Henri IV et sa maîtresse Gabrielle d'Estrées, maîtresse officielle du roi, née en 1573 et décédée en 1599, celle que l'on surnomma la presque reine. Elle donna 3 enfants à Henri IV. Françoise Kermina précise dans son ouvrage « Lettres d'amour, j'ai tellement envie de vous ». C'est au cours d'une de ses campagnes en Picardie en novembre 1590 au château de Coeuvres, propriété des d'Estrées, qu'Henri IV rencontra Gabrielle pour la première fois. Il la connaissait par ouï-dire uniquement, car elle était alors la maîtresse de son grand écuyer, Roger de Lary, seigneur de Bellegarde, qui n'avait pu se retenir de vanter auprès d'Henri IV sa bonne fortune. Et le roi, intéressé, avait eu envie de connaître cette merveille. Il n'avait pas été déçu. Gabrielle, à 18 ans, était d'une beauté éblouissante, vantée par tous ses contemporains. Le roi trouvait chez Gabrielle toutes les qualités qu'il aimait chez les femmes. La beauté physique, mais aussi la douceur, la tendresse, la grâce. De l'avis de tous, elle était fort aimable. Même si au début, elle trompa effrontément avec Bellegarde, qu'elle ne réussissait pas à oublier, elle s'attacha peu à peu au roi et finit par lui être fidèle. Surtout lorsque s'ouvrit à elle la perspective de ceindre la couronne. Surnommée la duchesse d'ordure, elle était détestée du petit peuple qui lui reprochait son luxe extravagant, affiché sans vergogne, alors que le pays se relevait à peine des guerres civiles. Elle coûtait très cher au roi. Elle donna 3 enfants au roi Henri IV. Une 4e grossesse lui fut fatale. Le roi, à Gabrielle d'Estrées, Compiègne, le 14 avril 1593.
Qu'elle fut punie à mon offense.
Ah, que je fus affligé ce soir, quand je ne trouvais plus le sujet qui me faisait trouver le veillé si doux. 1000 sortes de délices se représentaient devant moi, tant de singulières raretés. Bref, j'étais plus enchanté que ce magicien ne vous a fait trouver votre cassette. Certes, mes belles amours, vous êtes admirables, mais pourquoi vous louais-je? Cette gloire vous a rendu infidèle jusqu'ici, et la connaissance de ma passion. Que la vérité de ces belles paroles proférées avec tant de douceur sur le pied de votre lit, mardi, la nuit fermante, m'ôte toutes mes vieilles et invétérées opinions. Je remarque le lieu et le temps pour vous montrer combien je les ai gravées dans ma mémoire et pour vous en rafraîchir le souvenir. Je monte à cheval pour aller coucher à Melun. Je ne sais encore si j'irai à Mantes, bien que la voisine soit partie. Demain, je vous en manderai la certitude. Pour fin, je vous dirai que le déplaisir de vous laisser m'a saisi tellement le cœur que j'en ai cru mourir toute cette nuit et me trouve encore bien mal, qui me fait achever plus tôt que je ne désirerais cette lettre, en vous baisant 1 million de fois les mains.
Le roi à Gabrielle d'Estrées, Melun, le 16 avril 1593.
Je sens que les fidèles se viennent présenter.
Je m'en vais dîner à Mantes et reviendrai coucher ici. Puis demain, j'irai du tout. Sauveterre n'est point venu, de quoi je suis en peine. Je vous manderai force nouvelle par la Varenne que je vous dépêcherai demain. Vraiment, ma venue était nécessaire en ce pays, si elle le fut jamais en lieu. Ne faillez pas, mes chers amours, à venir au jour que vous m'avez promis. Plus je vais en avant, et moins je m'accoutume à supporter l'absence. Vous m'avez, je le confesse, plus charmé que je ne le fus jamais. Excusez si vous n'avez que ce mot pour aujourd'hui, et aimez votre sujet comme vos yeux. Certes, il vous adore avec une extrême passion et fidélité. Bonjour, ma chère maîtresse. Je te baise 1 million de fois les pieds.
Le roi à Gabrielle d'Estrées, Saint-Denis, le 12 juillet 1593.
Ma maîtresse, je suis arrivé à 3 heures en ce lieu, n'y ayant appris nulle nouvelle de celui que je venais chercher. Givry est allé pour en apprendre. L'on ne parle ici que de cette beauté nouvelle. Ma présence était fort nécessaire en ce lieu. Je m'en vais dîner puis dormir, mais je vous paie premier ce tribut, car vous marchez la première en toutes mes passions. Certes, mes chers amours, vous devez plutôt craindre que je vous aime trop que trop peu. Cette faute vous est agréable, et à moi aussi, puisqu'elle le vous est. Voilà comment je me transforme en toutes vos volontés. N'est-ce pas pour être aimé? Aussi crois-je que vous le faites, et l'âme contente de ce côté-là, je finis vous baisant 1 million de fois les mains.
Gabrielle d'Estrées au roi, mi-octobre 1592. Je meurs de peur. Assurez-moi, je vous supplie, en me disant comment se porte le plus brave du monde. Je crains que son mal ne soit grand, puisque autre cause ne me devrait priver de sa présence aujourd'hui. Dis-moi des nouvelles, mon cavalier, puisque tu sais combien le moindre de ces mots m'est mortel. Combien que par deux fois j'ai su de votre état aujourd'hui, je ne saurais dormir sans vous envoyer 1000 bonsoirs. car je ne suis pas douée d'une ladre Constance. Je suis la princesse Constance, et sensible pour tout ce qui vous touche, et insensible à tout ce qui reste au monde, soit bien ou mal. »
Voici maintenant des extraits de la correspondance entretenue par le roi Henri IV et sa maîtresse Catherine Henriette Balzac d'Entragues, maîtresse du roi, née en 1583, décédée en 1633. Elle succéda à Gabriel d'Estrées et donna 2 enfants au roi. Voici ce que nous précise dans son ouvrage Françoise Kermina, un ouvrage paru aux éditions Talendier. Henriette d'Entragues avait 20 ans lorsqu'elle devint la maîtresse d'Henri IV. Elle appartenait à une famille ancienne et proche du pouvoir, implantée dans le Gâtinais. Son père, François de Balzac, seigneur d'Entragues, était conseiller d'État et capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances et chevalier du Saint-Esprit. Gabrielle était mince, brune, souple, d'une beauté moins imposante que Gabrielle d'Estrées, mais encore plus attirante. Elle était en outre douée d'une gaieté et d'un esprit ravageur que n'avait jamais montré sa devancière Gabrielle. Ses yeux bleus pétillants de malice, le sourire enjôleur, elle n'épargnait à personne, pas même au roi, ses railleries mordantes. Intelligente et cultivée, pédante à ses heures, elle aimait discuter de théologie et citer sa lecture favorite, les Confessions de saint Augustin. Henriette était une personne froide, calculatrice, qui n'aimait qu'elle-même. Elle mena pour séduire Henri un jeu très habile, où le sentiment pour sa part compta très peu. Si par la suite elle éprouva un amour réel pour lui, nous ne le savons pas, ne la connaissant que par les reproches, quelquefois excessifs, souvent émouvants, que le roi ne cessa de lui adresser pendant 10 ans. Le roi à Henriette d'Entragues, Fontainebleau, le 11 octobre 1599.
Mon cher cœur, l'on me vient de faire prendre médecine, qui m'empêchera de vous faire long discours. Après dîner, je vous écrirai des nouvelles d'ici. Contentez-vous de ce mot, que je vous aime plus que ma vie, et vous baise 1 million de fois.
Le roi à Henriette d'Entragues, le 13 octobre 1599.
Mes chers amours, celui qui vous a dit qu'il m'avait vu à la messe vous a menti, car il y a 3 jours que je n'en ouïe. Tout aujourd'hui, je me suis trouvé encore mal, mais ce soir, Dieu merci, je me porte mieux, toutefois faible. Je vous verrai bientôt, car je ne puis vivre sans cela. Je suis si triste que je m'importune moi-même. Bonsoir, le cœur à moi. Je te baise et te rebaise 1 million de fois.
Le roi à Henriette d'Entragues, le 15 octobre 1599. Vous aurez,
mes chers amours, je reçus ce soir votre lettre par le retour de Petit, recevant avec extrême contentement de l'honneur que vous me faites de m'assurer toujours de votre bonne grâce. J'ai vu par Icelle l'étonnement de votre père, il a bien raison, car sa procédure m'a aliéné de toutes sortes de traités avec lui. Vous me mandez que vous espérez qu'il me contentera. Je vous supplie à main jointe, ma chère âme, que je n'ai plus affaire à lui. Pouvant trouver notre contentement entre nous deux, sachons-nous-en le gré tout entier. L'argent pour vous acheter une terre est tout prêt, rien ne vous manquera. Marchaumont viendra dans 1 heure, monsieur de Fleury est ici. Je travaillerai pour vous plus que nos, mais ne m'allez plus brouiller avec cet homme qui n'a songé depuis hier qu'à trouver moyen d'accrocher encore quelque chose pour m'affliger. Je vous en supplie, le genou en terre, et que nos heures ne dépendent plus que de nous. S'il vous plaisait vendredi venir dîner à Fleury, je tâcherai à vous y faire bonne chère. Aimez-moi comme celui qui n'aimera jamais que vous. Sur cette vérité, je baise 1 million de fois tous les petits garçons.
Le roi à Henriette d'Entragues, Saint-Germain-en-Laye, le 29 octobre 1599.
J'ai pris le cerf en 1 heure avec tout le plaisir du monde et suis arrivé en ce lieu à 4 heures. je suis descendu à mon petit logis, où il fait admirablement beau. Mes enfants m'y sont venus trouver, ou, pour mieux dire, on les y a apportés. Ma fille Amande, fort, et se fait belle, mais mon fils sera plus beau que son aîné. Vous me conjurez, mes chers amours, d'emporter autant d'amour que je vous en laisse. Ah, que vous m'avez fait plaisir, car j'en ai tant que, croyant avoir tout emporté, je craignais qu'il ne vous en fût point demeuré. Je m'en vais, hélas, entretenir Morphée, mais s'il me représente un autre songe que de vous, ma chère maîtresse, je fuirai à tout jamais sa compagnie. Bonsoir pour moi, bonsoir pour vous, ma chère maîtresse. Je vous baise un million de fois vos beaux yeux.
Le roi à Henriette d'Entragues, Fontainebleau, le 21 avril 1600.
Mademoiselle, l'amour, l'honneur et les bienfaits que vous avez reçus de moi eussent arrêté la plus légère âme du monde, si elle n'eût point été accompagnée de mauvais naturels comme le vôtre. Je ne vous piquerai pas davantage, bien que je pusse et dusse le faire, vous le savez. Je vous prie de me renvoyer la promesse que vous savez, et ne me donnez point la peine de la ravoir par une autre voie. Renvoyez-moi la bague que je vous rendis l'autre jour. Voilà le sujet de cette lettre, de laquelle je veux avoir réponse à nuit.
Le roi au sieur d'Entragues, Fontainebleau, le 21 avril 1600.
Monsieur d'Entragues, je vous envoie ce porteur pour me rapporter la promesse que je vous baillais à Malesherbes. Je vous prie, ne faillez pas de me la renvoyer, et si vous me la voulez rapporter vous-même, je vous dirai les raisons qui m'y poussent, qui sont domestiques, non d'État, par lesquelles vous direz que j'ai raison et reconnaîtrai que vous avez été trompé et que j'ai un naturel que je peux dire plutôt bon qu'autrement. M'assurant que vous obéirez à mon commandement, je finirai vous assurant que je suis votre bon maître.
Le roi à la marquise de Verneuil, Beaufort, le 11 octobre 1600.
Mon cher cœur, j'étais parti si matin pour aller reconnaître les passages que je vous ai mandés, que cela m'a retardé jusqu'à cette heure le contentement de savoir de vos nouvelles, ayant trouvé à mon retour votre laquais arrivé. J'ai baisé mille fois votre lettre, puisque ce ne pouvait être vous. Ne doutez pas que je ne vous trouve fort à dire. Nous sommes trop bien ensemble pour qu'il puisse en être autrement. Je vous le montrerai bien par mon prompt retour.
Peut-être que votre majesté s'offensera de voir hors de ma prison cette lettre, après avoir commandé de ne pas laisser sortir celle qui l'envoie. Mais puisqu'on permet ordinairement, et même aux plus coupables, de dire ce qu'il désire, je vous supplie, sire, avoir pour le moins agréable de me donner cette liberté d'écrire en me plaignant, au lieu de celle que je perdis en aimant. Je ne demande pas de me pouvoir justifier avec des paroles, puisque mes actions passées rendent suffisamment témoignage de mes desseins et que votre jugement même vous fait assez entendre mes justes raisons. Je requiers seulement qu'il soit loisible à ma douleur de vous faire entendre mes plaintes. Et vraiment, il est bien raisonnable, puisque votre majesté veut que je souffre cette douleur, qu'elle endurera moins que je la dise, afin qu'elle puisse dire, après, que je ne l'ai méritée. Un temps fut que votre majesté recevait de moi des doux baisers au lieu des propos amers qu'elle reçoit maintenant, et des soupirs d'amour au lieu des sanglots d'affliction. J'étais toujours collée à votre bouche et, mieux encore, à votre âme, que si parfois je m'en séparais pour soupirer mes amours, mes soupirs, vous étiez les plus doux et les plus favorables qui puissent conduire au port la félicité la plus désirée. Et si j'ouvrais la bouche pour vous dire quelque chose, il vous semblait que le ciel s'ouvrait pour vous recevoir. Et tous ces contentements passés se sont maintenant changés en dégoût présent, et je crois que je n'eusse jamais possédé ce grand bien que je ne méritais pas. Si ce n'eût été pour souffrir aussi ce grand mal que je ne mérite aucunement, et n'eusse jamais été la plus heureuse de mon siècle, sinon pour y être la plus malheureuse. Malheureuse véritablement, puisque je suis tombée d'un lieu si haut où l'amour m'avait logée, sans que même l'amour déloge de ma pensée en aucune sorte. Malheureuse, puisque les cieux permettent que ma condition se change encore que mon affection ne soit changée. J'aime, comme auparavant,
Je brûle avec autant d'ardeur qu'auparavant, mais non avec autant de félicité que je ressentais avant cette dernière amertume, parce que celui qui m'aimait plus que sa propre vie ne recherche à cette heure que ma mort, ou s'il ne la désire, il la cause. Que s'il brûle, c'est du feu d'un violent courroux qui consume son amour et mon contentement. Plût à Dieu que ma vie demeurât aussi par même moyen consumée, car quel plus rigoureux tourment pourrais-je souffrir que de n'être pas aimée, ne l'étant pas que d'être vivante, et étant en vie de mourir toujours de regret de ne mourir jamais. Et quel plus grand mal me pourrait arriver que de ne voir éloigner mon âme de mon corps, au même temps que celle de votre majesté se sépare de la mienne. Ce sont les peines d'une faute où jamais je n'ai pensé. Ce sont aussi, s'il m'est permis de le dire, des preuves d'un amour qui ne fut jamais conçu dans votre âme. Et je juge en ce changement que vous n'eûtes jamais de l'amour pour moi, ou que si vous en avez eu, qu'il n'était guère ardent. Ou s'il a été, pour le moins suis-je assuré que ce cœur, tant immuable au danger et fort muable à son amour. Dieu veuille qu'il le soit aussi en sa colère, et je crois que votre majesté le sera si vous balancez, d'un côté, les effets de celle qui n'a point de pareil en l'affection qu'elle vous porte, encore qu'elle soit haïe, aux faux rapports et aux paroles mensongères de ceux qui lui veulent du mal. Ah, que si vous notez tout sur vos petits-enfants, miens pareillement et qui, nonobstant leur peu d'âge, ne laissent pas d'avoir beaucoup de ressentiment de douleur, entendant ma juste plainte et l'injuste rigueur du ciel, avant que d'avoir connaissance d'eux-mêmes, je crois que vous m'octroierez la liberté pour l'affection que vous leur portez, encore qu'elle soit déviée à celle que porte la mère. Sire, vous avez part en eux, et eux dans ma douleur, et puisqu'ils sont affligés en ma personne, il semble que vous devez avoir compassion de moi en l'ayant d'eux, et par ce moyen, vous aurez pitié de vous-même, puisque vous possédez le nom de père, et d'aussi bon père comme de bon roi. La nature de ces enfants parle avant que leur langue, et l'amour paternel vous doit avoir requis mon élargissement plutôt que ma lettre. Et même, je dirais que votre naturelle clémence est si grande que vous me devez délivrer de cette captivité, afin de vous affranchir vous-même de l'ennui que l'affliction d'autrui vous donne. Que si vous ne voulez pas que je doive ma liberté à mon innocence, pour le moins que ce soit à votre bonté, de même que je vous suis redevable de votre amour passé plus qu'à mon mérite. Ainsi, libre de la sorte, je serai plus esclave de votre majesté et beaucoup plus sa prisonnière lorsque je le serai moins.
Terminé, voici des extraits de la correspondance entretenue par le roi Henri IV avec sa deuxième épouse légitime, Marie de Médicis. Marie de Médicis, née le 26 août 1573 à Florence, décédée le 3 juillet 1642 à Cologne. Elle épousera le roi le 17 décembre 1600. Elle est couronnée et sacrée le 13 mai 1610 à Saint-Denis. De son union avec Henri IV naîtront 5 enfants, dont Louis XIII, qui naîtra en septembre 1601 à Fontainebleau. Françoise Kermina nous précise « Le roi avait trompé sa femme dès le début de leur mariage, non seulement en ne rompant pas une scandaleuse liaison avec Henriette d'Entragues, mais aussi en lui faisant espérer, par sa correspondance exagérément sentimentale, un mari amoureux qu'il n'avait ni l'intention ni l'obligation d'être. Il aggrava bientôt son cas. À peine la reine fut-elle arrivée à Paris, qu'elle dut, devant toute la cour, subir une confrontation avec sa rivale, Henriette d'Entragues. Cette femme a été ma maîtresse et veut désormais être votre particulière servante, lui dit le roi en lui présentant Henriette. La marquise, esquissant une furtive révérence,
il l'obligea par une pression sur l'épaule à s'agenouiller devant la reine et à lui baiser le bas de sa robe selon l'étiquette. Croyant mettre ainsi les choses au point, il ne fit que créer un conflit dont il ne devait jamais maîtriser les conséquences dévastatrices. Pourtant, lorsqu'il vit Marie pour la première fois à Lyon, ne la connaissant que par des portraits évidemment flatteurs, Henri ne montra pas la moindre déception. Il voulut l'aimer, essayant de former avec elle un vrai couple. Le roi à Marie de Médicis, Paris, le 24 mai 1600.
Madame la princesse de Toscane, les vertus et les perfections qui reluisent en vous et vous font admirer de tout le monde avaient, il y a déjà longtemps, allumé en moi le désir de vous honorer et servir comme vous le méritez. Mais ce que m'a rapporté Alaincourt me l'a fait croître. Et ne pouvant moi-même représenter mon inviolable affection, j'ai voulu, en attendant ce consentement, qui sera bientôt si le ciel favorise mes vœux, faire élection, madame, de ce mien et fidèle serviteur Frontenac pour faire cet office en mon nom, assuré qu'il s'en acquittera fidèlement, comme celui que j'ai nourri et qui, mieux que nul autre, a connaissance de mes attentions. Il vous découvrira mon cœur, que vous trouverez non moins accompagné d'une passionnée volonté de vous chérir et aimer toute ma vie comme maîtresse de mes affections, mais de ployer dorénavant sous le joug de vos commandements, celui de mon obéissance comme dame de mes volontés, ce que j'espère de vous pouvoir témoigner un jour, et vous confirmer en personne le gage qu'il vous porte de ma foi, si vous ajoutez pareille foi à lui qu'à moi-même, de quoi je vous prie de lui permettre, après vous avoir salué et baisé les mains de ma part, qu'il vous présente le service d'un prince que le ciel vous a dédié et fait naître pour vous seul, comme pour moi il a fait votre mérite.
Le roi à Marie de Médicis, Lyon, le 24 juillet 1600.
Ma maîtresse, je viens de recevoir une lettre de vous par les mains de Joannini, qui m'a apporté beaucoup de contentement, comme feront toutes celles que je recevrai, vous priant de m'en honorer le plus souvent que vous pourrez. Le duc de Savoie a fait le fin jusqu'à cette heure, mais je le presse de façon qu'il est au bout de son relais. Et si dans 8 jours il ne me satisfait, la première lettre que vous recevrez de moi sera de Chambéry. Toute son espérance est de me faire quelque méchanceté, mais Dieu m'en gardera premièrement pour vous, puis pour mes sujets. J'ai pris les eaux de Pougue, de quoi je me suis bien trouvé. J'achevais hier d'en prendre. Comme vous désirez la conservation de ma santé, j'en fais ainsi de vous, et vous recommande la vôtre afin que, à votre arrivée, nous puissions faire un bel enfant qui fasse rire nos amis et pleurer nos ennemis. Frontenac me dit à son arrivée que vous désiriez avoir quelque modèle de la façon dont on s'habille en France. Je vous enverrai des poupines, et avec M. Legrand, je vous enverrai un très bon tailleur. Je commence à vous écrire librement. Usez-en de même, car nous sommes liés d'un lien que rien que la mort ne peut séparer. Résolvez-vous, ma belle maîtresse, de me faire une faveur, car de vous seul en veux-je porter à cette guerre. Je finirai par cette requête que je vous supplie de m'accorder, et baiserai 100 000 fois vos belles mains.
Le roi à Marie de Médicis, Grenoble, le 30 septembre 1600.
Ma femme, vous verrez et entendrez par Madame de Guercheville mes volontés sur la forme que je désire que vous teniez en votre façon de vivre avec les princesses. Croyez-la de tout ce qu'elle vous en dira de ma part. C'est une des femmes bien du monde et qui m'est aussi fidèle servante. Aimez-la, ses conseils vous seront toujours très utiles et à moi très agréables. J'espère vous voir sitôt après elle, que je ne la ferai plus longue. Je baise votre belle bouche 100 000 fois.
Le roi à la reine, Paris, 27 janvier 1601.
Mon cœur, je témoigne que je vous hais bien fort de me réjouir de votre mal. Pour Dieu, conservez-vous bien. Et pour vous, et pour moi, et pour tout ce royaume. Mandez-moi le jour que vous serez à Nemours, afin que je m'y trouve. La neige continue. Il y en a plus d'un pied dans les bois, ce qui m'empêche de courre aujourd'hui un cerf. Mais ce sera demain si la neige fond. Lundi, j'irai voir mes enfants. J'ai encore un peu mal aux yeux, mais mon rhume diminue fort et ne m'en ressentirai plus, mais que je vous vois. Ce que vous m'avez écrit en français est fort bien. Si vous augmentez tous les jours d'une ligne, dans 8 jours toute la lettre sera française. Ne doutez point que je ne vous aime bien, car vous faites tout ce que je veux. C'est le vrai moyen de me gouverner. Aussi ne veux-je jamais être gouverné que de vous, que je baise 100 000 fois.
Le roi à la reine, Limoges, le 19 octobre 1605.
Mon cœur, Beringen est arrivé avec son faiseur d'argent. Il m'a baillé votre lettre, par laquelle je vois que l'on ment à Paris comme de coutume. Ceux qui font court le bruit que nous sommes mal ensemble le désireraient peut-être, mais nous les éloignerons bien de leur compte. J'ai vu aussi ce que vous me mandez de cette dame jaune et maigre. Ce n'est plus marchandise pour ma boutique, car je ne me fournis que de blanc et de gras. J'espère faire mon entrée demain et vendredi partir pour m'en retourner vous voir en la plus grande diligence que je pourrai, car je vous aime de tout mon cœur. Croyez-le et m'aimez aussi comme cela. Je te donne le bonsoir et 1000 baisers.
Le dauphin à son père, le roi Henri IV.
Papa, dès que vous êtes parti, j'ai donné bien du plaisir à maman. J'ai été à la guerre dans sa chambre. Je suis allée reconnaître les ennemis. Ils étaient tous dans un tas dans la ruelle du lit à maman, où ils dormaient. Je les ai bien éveillés avec mon tambour. J'ai été à votre arsenal, papa. Monsieur de Rosny m'a montré tout plein de belles armes et tant, tant de gros canons. Et puis il m'a donné de bonnes confitures et un petit canon d'argent. Il ne me faut qu'un petit cheval pour le tirer. Maman me renvoie demain à Saint-Germain, où je prierai bien Dieu pour vous, papa, afin qu'il vous garde de tout danger et qu'il me fasse bien sage et la grâce de vous pouvoir bientôt faire très humble service. Ah, j'ai fort envie de dormir, papa. Féfé Vendôme vous dira le demeurant, et moi que je suis votre très humble et très obéissant fils et serviteur. Dauphin.
Vive Henri IV, vive ce roi vaillant, ce diable à quatre a le triple talent de voir et de battre et d'être un vert galant, de voir et de battre et d'être un vert galant. Chantons en vrais amis au choc des fers, les roses et les lys. Au choc des fers, les roses et les lys. Chantons l'antienne qu'on chantera dans 1000 ans. Que Dieu maintienne en paix ses descendants jusqu'à ce qu'on prenne la lune avec les dents, jusqu'à ce qu'on prenne la lune avec les dents. Vive la France, vive le roi Henri, car un son danse en disant comme Paris. Vive la France, vive le roi Henri, vive la France, vive le roi Henri.